J'aimerais ce matin partager avec vous un passage de l'évangile de Luc, au chapitre 11 et à partir du verset 10. C'est un texte que Francine a lu en réunion de prière il y a une quinzaine de jours. Et c'est vrai que quand elle l'a lu, ce texte a profondément attiré mon attention. Et je me suis dit que c'était vraiment un message qui devait être apporté dans chacune de nos vies et vécu dans chacune de nos vies. Et en même temps, en le prenant, je me suis dit, je sens que ça générera forcément des réactions. Parce qu'on va se dire, oui, mais moi je le fais déjà, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Donc, je sais déjà qu'il y aura ces réactions-là. Je préviens tout de suite. Parce que je crois que malgré tout, même si nous vivons certaines choses, il est bon, il est utile de revenir sur certains principes spirituels. Luc, chapitre 11 et verset 10, verset 9, pardon. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est ce verset-là que je souhaiterais partager avec vous ce matin. Mais on va lire quand même les versets suivants qui vont aller jusqu'au verset 14. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Alors le verset 9 nous place devant un principe spirituel qui nous est dicté par Christ, et qui l'apporte non seulement à ses disciples, mais à ceux qui sont autour, en disant, voici ceci, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et en prononçant ces paroles, je suis certain que dans nos esprits se disent certains, pour ne pas dire tous, mais moi j'ai déjà demandé et on ne m'a pas encore donné. Donc cette parole n'est pas pour moi. Ou Jean-Marc va encore appuyer là où ça fait mal, puisqu'on ne m'a pas donné, c'est soit que je demande mal, soit que Dieu ne veut pas me donner. Donc ce verset devient compliqué à recevoir ou à entendre. Et pourtant je crois profondément qu'il y a dans cette position à laquelle nous invite Christ quelque chose qui relève de la victoire. Quelque chose qui relève de la paix, quelque chose qui relève de la grâce de Dieu. Je parlais avec un couple cette semaine, pour lequel on prie dans l'église depuis quelque temps, et qui était dans cette pensée que l'on trouve souvent dans les églises, à savoir que si nous demandons des choses à Dieu et que nous ne le recevons pas, alors, disent certains êtres spirituels, c'est que nous sommes dans le péché. Vous n'avez jamais entendu parler cela? Alors on peut l'entendre, le recevoir de manière plus ou moins facile, mais lorsqu'on est couché sur un lit d'hôpital, lorsqu'on a demandé la guérison et que la guérison n'est pas là, certaines personnes voient des visiteurs comme Job a eu ses amis qui sont venus le visiter dans sa misère, et rajouter une couche de culpabilité, un sentiment de défaite qui est dû à soi-même, alors que ça n'a rien à voir. Il y a de nombreuses années, nous avons repris avec Michel, dans notre vie d'église, deux couples qui étaient allés voir une sœur malade du cancer et qui était là en train de dire « Oui, si tu n'es pas guéri, c'est que tu es dans le péché ». quelles paroles violentes, qui sont tellement éloignées de la pensée et de la réalité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et pourtant, il y a ce verset qui dit « Demandez, l'on vous donnera ». Et je sais que parfois, Dieu ne donne pas immédiatement ou ce que nous voulons à l'instant où nous le demandons. Mais vous verrez que dans ce verset, il y a aussi quelque chose qui est très fort, puisqu'il se termine au verset 13 par cette image. Si vous êtes méchant et que vous donnez du pain et non pas une pierre, ou si vous donnez un poisson et non pas un serpent, si vous donnez un œuf et non pas un scorpion à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le pain, l'œuf, le... Non. Vous donnera-t-il le Saint-Esprit ? Et l'interprétation de ce verset, « Demandez et l'on vous donnera », la clé est certainement dans la place que le Saint-Esprit occupe, prend, tient dans notre vie pour servir d'intermédiaire ou porter nos demandes. C'est-à-dire que nos demandes ne soient plus celles qui sont portées par nos désirs et nos envies, mais véritablement par le Saint-Esprit. Alors, ce texte de le verset 9, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira », s'inscrit dans un ensemble de textes de l'Évangile de Luc, juste avant. Si vous remontez un tant soit peu et que vous descendez aussi autour de ce texte, vous voyez qu'il s'inscrit dans un enseignement bien particulier. D'abord, au verset 38 du chapitre 10, juste un petit peu au-dessus, vous avez le récit de Marthe et Marie sur la question de « qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie ?» Et lorsque l'on demande, on est bien sûr « qu'est-ce qui est important dans ma demande pour que Dieu puisse y répondre ?» par rapport à ce que je suis, à ce que je vis. Et donc ce texte de Marthe et Marie n'est pas déconnecté dans la logique de l'évangéliste Luc pour arriver à ce verset « Demandez et l'on vous donnera ». Marthe et Marie ont des demandes particulières. Marthe a une demande « Demande à ma sœur de m'aider à faire la cuisine ». C'est l'essentiel pour elle. C'est ça sa demande. Marie, sa demande, c'est « Qu'est-ce que tu peux m'apporter et me donner, Seigneur ? Qu'est-ce qui descend de toi ? Qu'est-ce qui vient de toi ? Quelle est la parole que tu dis là, alors que tu es assis chez moi, qui puisse me faire du bien ?» C'est ça, sa demande. Juste après ce récit de Marthe et Marie, il y a Jésus qui prie à l'écart, et les disciples lui disent « Seigneur, apprends-nous à prier. » C'est là leur demande. Ils voient un Christ qui est dans une relation profonde avec son Père, qui vit quelque chose d'extraordinaire. Ils le voient. Ils disent, mais nous, on veut vivre la même chose. Nous voulons que notre prière soit habitée de cette même foi, de cette même relation, de ce même amour entre le Père et Christ. Je veux, nous voulons. Alors, si vous voulez apprendre à prier, dites, Notre Père qui est aux cieux. C'est juste avant que votre demande, demandez, l'on vous donnera. La prière, c'est bien un acte de demande, entre guillemets. Et juste après cela, vous avez, après le Notre Père, dans l'évangile de Luc, la parabole de l'ami importun. Vous savez, celui qui arrive à minuit, 1h du matin, et qui appuie sur la sonnette en disant, « Hé, réveille-toi, j'ai des visiteurs chez moi, j'ai besoin de pain, réveille-toi !» Et Jésus dit, eh bien, cette demande-là, elle sera honorée, pas seulement à cause de l'amour, mais parce que celui-là vient et insiste. Une demande qui est insistante. Voilà ce dont j'ai besoin. Est-ce que Dieu ne réagira pas de cette manière-là si vous êtes dans l'insistance pour le solliciter ? Il y a quelque part un désir de Dieu à ce que notre foi soit une foi qui s'inscrive dans le temps et dans la fidélité. Je sais que c'est là qu'est ma réponse. C'est là qu'est la réponse à mes besoins. Et juste après cette parabole, il y a ce verset 9, « Demandez et l'on vous donnera ». Et juste après, j'ai terminé avec ce petit verset qui a l'air assez bref, court, c'est peut-être un des récits de guérison les plus courts qui soient. Une fois qu'il a enseigné cette question-là, de savoir comment demander, quelle est la place que nous avons devant Dieu pour le solliciter, il y a un seul verset qui dit « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. » J'aime que cette question de la demande, « Demandez et vous recevrez », se termine en termes d'enseignement par cette guérison. Il y avait quelqu'un qui était muet, qui avait un démon muet en lui, et il recommença à parler, il fut guéri et la foule fut dans l'admiration. Je crois que lorsque nous apprenons et nous devenons des demandeurs selon l'Esprit de Dieu, alors nous cessons d'être muets. Oh, nous parlons beaucoup. Nous prononçons beaucoup de paroles. Mais si nous regardons combien de ces paroles sont des paroles qui ont du poids, qui changent, qui transforment, et nos vies et celles des autres. En fait, nous sommes des muets qui parlons de temps en temps la langue de l'éternité et de l'efficacité de Dieu. Nous sommes des muets qui disons beaucoup de mots. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à être des demandeurs, des hommes et des femmes qui sachent demander et qui redeviennent à nouveau des personnes qui peuvent parler de manière utile selon l'Esprit de Dieu. Alors, demander, c'est une position un peu particulière, le fait de demander. D'abord, il faut oser demander. Vous savez, c'est plus facile d'être celui auquel on demande que d'être dans la position de celui qui demande. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? C'est beaucoup plus confortable. J'imagine Joseph voyant ses 10 frères venir à lui à la cour de Pharaon pour demander du pain, du blé. Ses frères qui l'avaient jeté dans un puits, qui avaient voulu s'en débarrasser. Ils ont hésité à le tuer, puis finalement ils l'ont vendu à une caravane de marchands d'esclaves qui l'a vendu en Égypte, etc. Et ce frère qui, au fil de son parcours, est devenu premier ministre de Pharaon, qui quelques années plus tard voit ses 10 frère se présenter à lui au pied de son trône, lui dire « Voilà, Seigneur, nous mourrons de faim. Nous avons besoin que tu nous accordes du blé pour que nous survivions, nous et notre famille. » Moi, il y a ce moment-là que j'aime. J'avais cette série de DVD, vous savez, de l'Ancien Testament, et il y avait ce film de Joseph qu'on regardait souvent avec les enfants. Et c'était notre passage préféré, le moment où les frères venaient devant Joseph. Et puis on regardait, ah là, j'aurais aimé être à la place de Joseph. Ouais, d'accord. Il ne leur dit rien. Hein. Dans un premier temps, il ne leur dit rien. Puis il va les piéger en leur donnant le blé, mais en cachant une coupe dans un sac pour qu'ils soient obligés de revenir avec le dernier frère, son frère à lui. Ah, c'est confortable d'être celui qui reçoit la demande. Mais être celui qui demande, oser demander. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses qui n'arrivent jamais parce que nous n'osons pas demander. Ou que nous n'osons pas demander selon ce que l'Esprit veut. Effectuer comme demande devant Dieu. Nous n'osons pas demander. Et ceux qui passent pour des héros, ceux qui passent pour des forts dans la foi ne sont en fait simplement que des personnes qui osent demander quand d'autres restent en arrière, se taisent, se sentent trop coupables, pas assez bien, pour se présenter devant Dieu et dire « Voilà ce dont j'ai besoin ». Oser, quelque part, c'est dépasser ses appréhensions, dépasser ses craintes. Arrêtez de penser que l'autre ne prendra pas en compte ma demande. Quelque part, je pense à cette parole de Job au chapitre 10, verset 15, qui est là dans sa détresse, il a tout perdu. Il dit, suis-je coupable ? Malheur à moi ! Suis-je innocent ? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. » Et parfois, nous sommes dans la même attitude. La même attitude qui consiste à dire « je n'ose pas demander, je suis tellement enfermé dans ma honte, ou dans le sentiment d'échec, ou dans ce si peu d'importance que j'ai. » Pour oser, il s'agit de ne plus s'imposer de limites supposées qui ne se trouvent que dans mon esprit. En fait, nous avons souvent construit nos murs intérieurs qui nous empêchent d'oser et de dire « voilà Seigneur, telle est ma demande. » Alors, il y a un petit graphique que j'aime bien et qui parle des étapes qui permettent d'oser. Je vais vous le projeter. C'est un petit graphique tout simple. Quand on est face à une démarche où il s'agit d'oser, là, la première réaction souvent c'est « ouf, je ne vais pas y arriver. J'y arriverai pas. C'est pas possible. » Ça, c'est la première étape que l'ennemi prend plaisir à poser en nous. Quand il y a en nous un désir, une envie, une orientation, un chemin, un choix à faire, et que le Saint-Esprit souhaiterait nous voir saisir, la première chose, oh, je ne vais pas y arriver. Puis ensuite, c'est je ne peux pas le faire, je n'ai pas les compétences. Moïse au buisson ardent. Mais enfin, Seigneur, je bégaye. Comment tu veux que je sois le porte-parole de ton peuple ? Oh, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui bégayent dans l'Église ? Des hommes et des femmes qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas faire ce à quoi ils sont appelés. Et l'ennemi, là aussi, c'est son jeu, entretient ce sentiment d'incompétence. Et pourtant, Dieu sait ce qu'il a déposé en chacun d'entre nous. Dieu sait qu'il a appelé chacun à le servir en déposant des dons, en donnant des charismes, des capacités. Et l'ennemi se frotte les mains en disant oh « oui, j'ai bien réussi ». Il ou elle est convaincu qu'elle ne peut pas le faire. Comment oser se mettre en route? Comment oser se lever? Après l'étape, c'est « je veux le faire, je veux oser, je vais me lever, je vais me mettre en route ». C'est le fils prodigue qui, devant son champ de caroub et ses porcs qui mangent mieux que lui, se dit ben, « je peux le faire, je peux retourner à la maison du Père. J'ose, même si j'ai dilapidé mon héritage, même si j'ai désobéi à mon Père, même si j'ai rompu le lien de confiance qui m'unissait à lui, j'ose, je peux le faire. » La conversion, elle est là. Et vous savez, la conversion, ce n'est pas cette foi où nous avons décidé d'appartenir à Dieu parce que nous avons compris le miracle de la croix. La conversion, c'est tous les jours. Toutes les fois où Dieu nous demande de nous lever, de revenir dans ses plans, d'entrer dans ses promesses. C'est cela, la conversion. Il n'y a pas une conversion. Je veux dire qu'il y a des conversions journalières que le Saint-Esprit sait déposer dans nos cœurs. Je veux le faire. La deuxième question, c'est comment je fais ? Le fils prodigue va dire, en fait, je suis parti bien loin. Comment je fais ? Par quelle route je vais ? Quelle direction je prends ? Quelle attitude j'adopte, compte tenu de ce qui s'est passé ? Mais je vais oser, il faut que je comprenne quel est le chemin. Et certainement, le Saint-Esprit a pour chacun d'entre nous des chemins différents. Je me méfie des cartes qui serait identique en termes d'itinéraire spirituel et qui dirait que Laurence doit faire le même chemin que Michel ou que Christine ou que Valérie ou que un tel. Non. Dieu, par son Esprit Saint, sait quels sont les chemins que nous avons à vivre. Ce matin, nous avons entendu une parole qui nous disait « Je connais tes souffrances, je connais tes béances, je connais ce que la vie, ce que l'adversaire, ce que toi-même tu as vécu et que tu as supporté. » Comment je peux faire ? Eh bien, c'est un chemin que le Saint-Esprit va te montrer et va me montrer à moi et à toi. Alors, je vais essayer de le faire, vous savez. Je vais essayer. Je ne sais pas, Seigneur, si j'ai les capacités, si... mais je vais essayer, je vais me mettre en route. C'est l'apôtre Pierre qui voit Jésus marcher sur l'eau et qui dit, « Ah, ouais, je voudrais bien faire comme lui. Alors, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Et le Seigneur dit, vas-y, viens. Et c'est là que se pose le problème. J'essaye ou j'essaye pas? Logiquement, si je mets le pied en dehors du bateau et que j'essaye de marcher sur l'eau, je m'enfonce. Logiquement. Et puis, Pierre dit, je vais essayer. C'est le risque de la foi. Ce que le Seigneur te demande et me demande face aux étapes que j'ai à vivre, c'est de dire maintenant, prends le risque de la foi. Passe ta jambe au-dessus du bateau. Et même si la logique dit ça ne fonctionnera pas, laisse Dieu te faire vivre un miracle dans ta vie maintenant. Alors je vais essayer. Et quand je me mets en route, je fais ce pas de foi. Alors, après le « je vais essayer », j'ai cette conviction que je peux le faire. La foi naît de cet instant où je mets en route ma foi et tout à coup je dis « je peux le faire ». Quand j'ai ma femme qui, à 60 ans, m'a dit « voilà, ce que j'aimerais faire, j'aimerais apprendre la harpe ». C'était un rêve d'enfance, vraiment un rêve d'enfance. Se disait, si un jour j'ai du temps, la possibilité, j'aimerais jouer de la harpe, apprendre. Alors, elle a franchi toutes ces étapes-là. Bon, d'abord, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Puis moi, j'étais à côté, je disais, moi, avec 6 cordes sur ma guitare, j'ai déjà du mal, alors je ne sais pas combien il y en a sur une harpe, mais ça doit être difficile. Ouais, j'étais là, assez dubitatif, j'ai rien dit, parce que la logique veut que le conjoint encourage sa conjointe. Mais j'étais là quand même assez perplexe. Et puis elle dit, oh, je ne peux pas le faire parce que ça coûte cher de louer une harpe. Et puis après, il faut prendre du temps en cours, avoir un prof, répéter. Oh, je ne peux pas le faire. Puis ensuite, elle a fait toutes ces... Je veux le faire. Ça, c'est quelque chose que je porte en moi. Et puis elle a dit, comment je peux faire? Concrètement, il a fallu qu'elle voie s'il y avait un professeur, s'il y avait des cours où elle pouvait louer. Et souvent, parfois, le comment je peux faire, on n'y va pas. On se dit, on a toujours des bonnes raisons. Les bonnes raisons pour ne pas faire, oser le chemin de Dieu. Et puis après, elle a dit, je vais essayer. Et ensuite, elle a dit, je peux le faire. Et après, elle a dit, je vais le faire. Elle est allée au cours. La harpe, moi, quand j'ai vu ce machin-là dans le salon, je me suis dit, aïe, 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 conséquent. Et après, j'ai eu un peu peur parce que, comme David jouait de la harpe, et qu'il y a des textes qui parlent que dans l'éternité, on jouera de la harpe, je me suis dit... Peut-être qu'il faut déjà que je commence maintenant, on ne sait jamais. J'ai déjà tellement de mal avec le groupe de louanges ici, donc dans l'éternité. Elle l'a fait. Et puis maintenant, elle peut dire, je l'ai fait. Elle le fait pour son plaisir, elle a une joie immense à faire ce qu'il y avait dans son esprit. Elle a osé. Sommes-nous prêts à oser? Il s'agit à un moment donné, lorsqu'on est face à cette... phrase, demandez, l'on vous donnera, c'est d'être quelqu'un qui demande, qui prend l'initiative, qui use de son droit de liberté. Demander, ça consiste à prendre cette initiative. Il faut franchir un pas, dire, Seigneur, je te demande. Il s'agit de vaincre sa timidité, de relever son estime de soi en se disant, je mérite quelque part de demander. Oui, parce qu'on est en position d'infériorité. C'est cette femme victime d'une perte de sang dans l'évangile de Marc qui dit « Je perds du sang, je suis malade depuis 22 ans, je vais oser et je vais demander à être guérie. » Même si elle le fait de manière imparfaite, en cachette, mais elle va prendre cette initiative. Et parfois, nous n'osons pas. Nous ne sortons pas. Demander, c'est vaincre son orgueil. Eh oui. Ah ouais. Pour les frères de Joseph, il a fallu marcher sur leur orgueil pour aller jusqu'à la cour de Pharaon, en ignorant que c'était leur frère qui était là-bas. Parfois, nous ne demandons pas parce que nous sommes trop fiers pour demander, y compris à Dieu. Y compris à Dieu. Peut-être parce que l'image que nous avons du Père céleste est l'image du Père que nous avons eue. Et que aller demander à son père, c'était peut-être difficile. Il faut vaincre son orgueil, comme Jaïrus, chef de synagogue. Un chef de synagogue, c'est-à-dire un de ceux qui cherchaient à empêcher Christ d'annoncer le royaume de Dieu. Jaïrus, une autorité spirituelle, le président de l'association de l'église locale. C'est pas moi, c'est lui. Mais qui a été confronté à cette souffrance, ma fille est mourante. Oh là là, lui, il a marché sur son orgueil, sur sa position, sur ses convictions, en se disant, là, il n'y en a plus qu'un qui peut accomplir un miracle. C'est ce Jésus-Christ qui passe au milieu des hommes, qui répond à leurs besoins. Ils viennent, ils demandent, ils reçoivent. Alors, chef de synagogue ou pas, je marche sur mon orgueil et je vais à sa rencontre. Demander, c'est pas facile. Et j'irais même que dans ce texte-là, qui se clôture par le fait que, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il ne dit pas donnera-t-il du pain, donnera-t-il un poisson, donnera-t-il un œuf ? Non, il dit il donnera son Esprit Saint qui sera et qui rendra capable l'individu de demander juste, pas juste à peu près, mais juste ce qui est juste pour soi et pour l'autre. Demander, c'est se mettre en position, entre guillemets, de quémandeur ou de demandeur, et d'accepter que quelqu'un soit au-dessus de nous pour accorder. Est-ce que je suis prêt devant Dieu à faire preuve d'humilité ? L'humilité, ce n'est pas la vertu cardinale prônée par notre société. J'aime pas les raccourcis, mais on a comparé un homme politique à Jupiter. Je ne suis pas sûr que ce soit très justifié. Mais une manière de montrer que dans notre société, il y a ceux qui sont sur leur Olympe et ceux qui sont en dessous. Et ceux qui sont sur l'Olympe de notre monde sont dans des positions de force, d'écrasement et d'autorité. Alors que Dieu n'est pas dans cette position-là. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a marché au milieu des hommes, parce qu'il s'est humilié lui-même, parce qu'il a accepté d'être pris au plus bas de l'échelle. C'est cela qu'il a accepté. Et c'est ce Dieu-là que nous rencontrons, que nous sollicitons. Alors notre rapport dans le fait de recevoir, après quand nous demandons, c'est de savoir recevoir et de vouloir recevoir. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir de la bonne manière, d'accueillir, et non pas de se dire, bon, quand en 85-86, on m'a chargé de la mise en place du RMI sur l'Orient pour les SDF, j'ai eu en face de moi toute une population très hétéroclite de sans domicile fixe. Certains SDF refusaient le RMI. Ils préféraient aller faire la manche en ville, etc. Mais ils n'étaient pas dans la capacité de se dire « ça, c'est un droit ». Et donc, ils refusaient. Il fallait les convaincre. On se dit « mais c'est une aberration, convaincre quelqu'un qui n'a pas d'argent à en recevoir ». J'ai passé des heures parfois à convaincre des personnes SDF à recevoir, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité à recevoir de l'argent comme cela. Quémander, faire la manche, ça ne posait pas de problème. Mais avoir de l'argent qui tombe tous les mois, ça c'est quelque chose qui les rendait en position difficile. Ça paraît aberrant, mais quand je vois certains de ceux qui appartiennent à Christ, je me dis, est-ce que parfois nous ne sommes pas aussi dans la difficulté à savoir recevoir, à vouloir recevoir celui, ses dons, ses richesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et cela repose dans cette confiance. Savoir recevoir et vouloir recevoir, ça repose sur ce principe aussi, c'est qu'on est dans une confiance vis-à-vis de celui qui donne. Moi, il y avait des SDF qui me disaient, ouais, mais si je prends cet argent, qu'est-ce qu'on va me demander ? Un SDF qui disait, mais on va me demander de rentrer dans le rang. On va me demander, il y avait ce qu'on appelait dans le RMI un contrat d'insertion. Alors quand on disait ça, vous savez, après, vous allez recevoir l'argent et on vous fera signer un contrat d'insertion. C'est-à-dire, quel est le chemin dans lequel vous allez rentrer pour faire à nouveau partir de la société. Contrat d'insertion, ah ouais. C'est-à-dire que je ne pourrais plus faire ce que je veux. Je ne pourrais plus, je dirais, vivre sans forcément travailler. Et pour certains, c'était un vrai dilemme. Il y a certains chrétiens qui sont là en se disant, ouais, il est où le piège avec mon Père Céleste? Si j'accepte de recevoir de lui, qu'est-ce qu'il va me demander? Quel est le contrat que je vais devoir signer? Quelles sont les obligations? Ah, tu ne tueras pas, tu ne vas... Oh, ça va, et ça, je peux le signer, ce contrat d'insertion. Les 10 commandements, ça va. Mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce que je vais perdre ma liberté? Est-ce que je pourrais continuer à vivre comme je le veux? Et par incapacité à recevoir, on se prive de ce qui est la vraie liberté en Christ. Celui qui cherche, trouve, dit ce verset 9. Cherchez et vous trouverez. Il y a Gaston Bachelard qui était un philosophe qui disait « Celui qui trouve sans chercher, ça arrive, celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver. » Vous savez, ceux qui ont, par hasard, entre guillemets, trouvé, ils ont passé parfois des décennies à chercher sans rien trouver. Pensez à Fleming qui a trouvé la pénicilline. Pensez à certains scientifiques qui ont dit, tout à coup, il a découvert. Oui, mais il a découvert. Ça fait 20 ans qu'il travaillait seul dans son labo pour arriver à trouver quelque chose. Alors, ce verset qui dit « Celui qui cherche, trouve » nous parle, là aussi, de ne pas rester simplement dans la demande. Celui qui demande, sera, on lui donnera, mais chercher. Est-ce que nous sommes dans une position de recherche permanente? Chercher, c'est se mettre en route, c'est se déplacer physiquement ou intérieurement. Est-ce que je suis un homme et une femme qui cherchent constamment ce qui est bon pour moi? Quelle est la pensée de Dieu? Est-ce qu'on peut chercher en restant immobile? Je vous racontais cette histoire de ce personnage persan qui était un voleur, un tricheur, mais qui, par ses histoires, donnait des leçons de vie et qui cherchait au pied d'un lampadaire en disant « J'ai perdu une pièce d'or ». Et puis son ami dit « Mais tu l'as perdu ici ?» Il dit « Non, je l'ai perdu dans la ruelle sombre là-bas ». Et puis il dit « Mais alors pourquoi tu la cherches ici ?» Et puis il dit « Parce qu'il y a de la lumière ». Où est-ce qu'on cherche? Comment on cherche? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sommes dans la recherche pour trouver ce que Dieu a pour moi aujourd'hui? Ah, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas dans l'église pour chauffer une chaise, pour être immobile. » Non, c'est évident, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en marche, que nous nous levions et que nous cherchions ce qui est bon pour moi, pour l'autre, pour l'Église, pour ce monde dans lequel nous vivons. Quand j'étais jeune, j'étais un féru des histoires d'explorateurs. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'ai lu et relu toute la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et il y a un récit que j'ai beaucoup aimé. C'est en 1911, on était au début du XXe siècle, dans l'exploration notamment des mondes inconnus, les déserts, l'Arctique, l'Antarctique. Et en 1911, il y avait un personnage qui était assez extraordinaire, qui s'appelait Amundsen, qui était un explorateur des régions glacées. Et en décembre 1911, il y avait une concurrence, vous savez, chaque explorateur essayait d'arriver le premier à tel endroit, dans tel pays, etc. Et il y avait une course qui se faisait pour savoir qui arriverait le premier au pôle sud. Et Amundsen est parti en décembre 1911, et il a réussi à atteindre le pôle sud dans des conditions dantesques, marcher dans le froid, à moins 40. Je sais pas, vous imaginez, à l'époque, marcher et avec des équipements à moins 40. Il est arrivé. Et il y en avait un autre qui s'appelait Scott, Robert Falcon Scott, que moi, j'ai, enfin, c'est un homme qui, je trouve, a un certain attachement, un ancien militaire qui, lui, a essayé d'atteindre le pôle sud quelques jours. Ils étaient quasiment sur la même ligne de départ. Il est juste, Amundsen est parti 12 jours avant. Et quand Robert Falconson est arrivé le 17 janvier 1912 au pôle sud, il a vu le fanion du pays d'Amundsen. Et puis, ils n'étaient pas très sympas. Amundsen avait laissé une lettre pour Scott avec prière de la remettre au roi de Norvège en disant « Ben voilà, si tu passes par là-bas, tu pourrais donner ça au roi pour lui annoncer que je suis arrivé au pôle sud. » Pas sympa. Et Scott et son équipe avaient déjà vécu des pertes assez terribles. Et puis, ils ont, dans la déception, repris le chemin du retour. Et alors qu'ils étaient dans le chemin du retour, ils se sont perdus. Et là, ils étaient en train de rechercher sur la route les points de ravitaillement qui avaient été placés pour qu'ils aillent jusqu'au pôle sud et qu'ils en reviennent. Et donc, il y avait des équipes qui avaient fait juste le chemin pour, par étapes, mettre des vivres. Et en fait, ils se sont perdus. Ils étaient découragés, ils étaient usés, certainement aussi du fait de la défaite dans la conquête du pôle sud. Et en fait, ils sont, à un moment donné, se retrouvés, ils n'étaient plus que quatre. Quatre de l'équipe qui devait aller jusqu'au pôle sud. Et il y en a un qui était le plus grand, le plus fort, mais de ce fait-là, il était aussi le plus lourd, qui s'est blessé au pied. Et c'est vraiment une histoire qui, en Angleterre, est célèbre parce qu'il voyait qu'il ralentissait ses compagnons. Et donc, il a décidé un jour, un soir, il a regardé ses compagnons et dit, et il le savait, les autres le savaient, il a dit, bah, je vais sortir et ça pourrait durer longtemps. Et en disant, c'est une phrase qui est restée célèbre, qui est très célèbre en Angleterre, c'est cette phrase de cet explorateur, je vais sortir et ça va certainement durer longtemps. Sous-entendu, ben, je vais partir pour pas vous ralentir, parce qu'il savait bien que les autres l'abandonneraient pas. Et il est sorti. Puis les autres ont été bloqués par le froid, par la neige, la glace, et ils sont en fait morts dans cette tente. Et on les a retrouvés avec la mission qui les suivait, 8 mois après, complètement congelés. Sous cette tente, ils étaient à 18 kilomètres de la réserve de nourriture. 18 kilomètres. Continuez à chercher. Continuez à chercher. Ceux qui ont retrouvé Robert Falcon Scott et ses deux compagnons ont construit une croix à cet endroit-là. Et sur cette croix, ils ont écrit un texte, moi, d'un poème que j'aime beaucoup. C'est un poème d'un des plus grands poètes anglais, Alfred Tennyson. Et je vais vous le lire parce que c'est un poème qui est connu en Angleterre et dans le monde entier et qui raconte l'histoire d'Ulysse quand il est arrivé sur son île et qu'il rêve de repartir. Ulysse, Tennyson dit, oui, mais une fois qu'il est arrivé là, il a tellement cherché que, après, une fois qu'il est arrivé, Ulysse a eu des désirs, des envies de continuer à chercher. Et il prête ses paroles à Ulysse s'adressant à ses compagnons âgés, en leur disant ceci, « Il n'est pas trop tard pour partir en quête d'un monde nouveau, car j'ai toujours le propos de voguer au-delà du soleil couchant. Et si nous avons perdu cette force qui autrefois remuait la terre et le ciel, ce que nous sommes, nous le sommes. Des cœurs héroïques et d'une même trempe, affaiblis par le temps et le destin, mais forts par la volonté, de chercher, lutter, trouver et ne rien céder. » Et l'équipe de secours, sur cette croix, a gravé les noms des 4 explorateurs morts dans le Nord. Et ils ont gravé aussi cette phrase qui termine ce poème de Tennyson. « Chercher, lutter, trouver et ne rien céder. » Je crois qu'il est aussi de notre appel d'être de ces hommes et de ces femmes qui disent « Je vais chercher, lutter, trouver et ne rien céder. » Ce sont ces chrétiens-là qui transforment le monde. C'est parce qu'un homme comme Luther a été de cette trempe-là qu'il a transformé la société de son temps jusqu'à aujourd'hui. Serons-nous aussi de ceux qui cherchent et qui trouvent ? On ouvre à celui qui frappe, termine ce verset. Le traducteur français, dans certaines des traductions, dit « on ouvre à celui qui frappe ». Dans le texte grec, je suis quand même allé vérifier, on est bien dans le même séquencement, à savoir « celui qui demande reçoit », donc « demande l'homme, reçoit de Dieu ». Celui qui cherche, l'homme, trouve ce que Dieu a en provision, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors on inverse les choses, c'est on ouvre, c'est Dieu, à celui qui frappe. Mais dans le texte grec, c'est quand même à celui qui frappe, on ouvre. Mais j'aime bien l'idée qu'il y a un traducteur qui s'est dit, là sur cette troisième proposition, c'est bien d'inverser les choses et de dire on ouvre, c'est-à-dire Dieu ouvre à celui qui frappe. Et on ne peut pas lire ce verset-là, cette pensée-là, sans se référer au texte de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici, dit Dieu, Christ, je me tiens à la porte et je frappe. » Là, pour le coup, c'est Christ qui frappe. Et on connaît ce verset qui dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et on est dans ce verset où, effectivement, il y a Christ qui frappe dans l'Apocalypse, c'est l'homme qui ouvre. Mais dans le verset de l'évangile de Luc, Christ inverse les choses en disant « c'est l'homme qui frappe et Dieu qui ouvre ». Et le traducteur de la Bible française, Second, semble avoir eu du plaisir à se dire « mais on ouvre », c'est-à-dire « Dieu ouvre à celui qui frappe » parce que c'est dans la nature de Dieu. C'est dans sa nature de Père d'être prêt à ouvrir à tous ceux qui frappent à sa porte. C'est sa nature. Quand allons-nous frapper à la porte de Dieu ? Quand allons-nous ouvrir, voir la porte s'ouvrir sur les promesses de Dieu pour notre vie, pour ce qu'il y a de meilleur ? Et puis ce verset se termine, cet enseignement se termine par cette parabole de la pierre par rapport au pain, du poisson par rapport au serpent, du scorpion par rapport à l'œuf. Et puis ce verset 14 qui a l'air totalement de tomber de nulle part, après cet enseignement sur les demandes, c'est Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient faire après cette histoire de demande, d'enseignement sur la demande, frapper, etc., recevoir ? Eh bien, en fait, moi, je crois que cette guérison-là, d'abord, la formulation, même en grec, elle n'est pas très claire, c'est le démon qui est muet. Je dis, tiens, il ne doit pas être très gênant, ce démon-là, s'il est muet. Mais c'est Jésus chassa un démon qui était muet. La compréhension, c'est Jésus chassa un démon dans quelqu'un qui était muet. Et le mot « kophos » qui est utilisé en grec, je suis allé rechercher là aussi dans mon gros dictionnaire grec-français, et le mot kophos parle pas simplement de quelqu'un qui est muet. En fait, le mot kophos veut dire celui qui est dans... c'est la personne dont les sens sont émoussés, qui est sourd ou sourd et muet. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien d'un sourd muet, kophos, que d'un muet. C'est-à-dire quelqu'un qui a tous ses sens complètement émoussés, personne âgée, et Platon, cherchez pas dans votre Bible, il n'y est pas. Platon disait, c'est quelqu'un qui est faible d'esprit, inintelligent, sot ou stupide. Un kophos. C'est-à-dire que quelqu'un qui est muet, c'est quelqu'un qui serait faible d'esprit, inintelligent, sot ou stupide. Et je me dis, après cet enseignement, est-ce qu'on n'est pas dans cette attitude, entre guillemets, de stupidité spirituelle, dont les sens sont complètement émoussés, aussi bien sourd que muet, lorsque nous n'apprenons pas à aller vers Dieu pour lui demander. En se disant, je suis demandeur, certes, mais celui à qui je demande, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut répondre, qui veut répondre, dont la réponse n'est pas celle de Joseph devant ses frères en se disant, attendez, je vais vous attraper, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, il n'y a pas cette crainte à avoir. Je peux m'approcher de mon Dieu, de mon Père, avec cette confiance. je ne veux pas être sot, je ne veux pas être inintelligent, je ne veux pas être un faible d'esprit en n'allant pas vers celui qui peut me répondre. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce chemin-là, frères et sœurs ? Père, garde-nous d'être des sots ou des êtres inintelligents. Donne-nous, là aussi, par ton Esprit Saint, puisque ce que tu nous donnes, c'est ton Esprit Saint pour réponse à nos demandes. Par ton Esprit Saint, donne-nous d'être des demandeurs, demandeurs de grâce, demandeurs de pardon, demandeurs de vie et d'espérance. Donne-nous, Seigneur, comme sur cette croix plantée en Antarctique, de travailler, de chercher, de trouver et de ne pas céder. Donne-nous d'être des hommes et des femmes en marche avec toi et pour toi. Que cette parole, Seigneur, nous encourage, nous stimule à aller de l'avant, afin que là aussi nous sortions de ce silence, de ces sens émoussés, pour pouvoir à nouveau parler, entendre et glorifier ton nom. Amen.